Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, c'est une grande satisfaction de voir aboutir notre projet de colloque d'un genre particulier, né il y a quelques mois seulement, d'une urgence et d'un malaise. Sentiment d'urgence apparemment partagé par d'autres que nous, puisque plus de 1400 personnes se sont inscrites pour suivre en ligne nos débats et que de nombreux collègues ont salué notre initiative. Ceci n'est pas un colloque, nous lance Magritte, sorti exprès de sa tombe. Ce l'est au moins au sens étymologique rappelé par les dictionnaires, dialogue, entretien de deux ou plusieurs personnes. En l'occurrence, nous sommes, ici présents ou à distance, plus de 50 personnes venues de toutes les disciplines, sciences humaines mais aussi sciences dures, d'opinions, d'horizons, de formations très divers. Notre point commun, nous constatons que la déconstruction qui a contribué à renouveler les disciplines au siècle dernier, est aujourd'hui devenue une impasse intellectuelle. Alors qu'elle était à l'origine une démarche critique, elle s'est transformée en une doctrine qui conduit à confondre la recherche et le militantisme, la vérité et la morale, la science et l'idéologie. Non sans dommage, cette doctrine tend à devenir hégémonique, à s'imposer comme le seul prisme légitime, parfois le seul subventionné aussi, dans l'université. Nous recevons chaque jour des annonces de colloques, de conférences, voire de postes à pourvoir, rédigés dans les termes de cette idéologie, avec un petit nombre de mots-clés bien identifiables qui forment les articles d'un nouveau catéchisme. Cette approche unique est en train de stériliser la recherche, si l'on peut appeler recherche une démarche qui, souvent, postule sa conclusion avant même de commencer, et de promouvoir des critères de sélection idéologique en lieu et place de critères scientifiques. Plus encore, cette approche pourrait être fatale à certaines disciplines, comme on le voit aujourd'hui aux États-Unis, où des champs disciplinaires entiers sont remplacés par des études culturelles transversales qui souvent ne reposent pas sur un savoir validé, mais sur des préjugés militants. Ainsi, l'université de Princeton a récemment supprimé le latin et le grec du cursus de lettres classiques, au prétexte que ces langues charrient des préjugés racistes. Quel chercheur sérieux peut prétendre étudier la Rome antique sans avoir accès aux sources? Qu'il soit sincère ou non, l'argument idéologique fournit un alibi idéal pour justifier la disparition de disciplines peu rentables et pour aligner toujours plus la recherche sur une logique de marché. Notre objectif premier est donc la défense des disciplines et de la méthodologie universitaire face aux menaces qui pèsent sur elles et que beaucoup ne veulent pas voir. Notre deuxième objectif consiste à élaborer collectivement une définition claire du déconstructionnisme parmi la diversité de courants qui s'en réclament, de la pensée décoloniale à la théorie du genre, en passant par l'écoféminisme. Ces courants sont eux-mêmes en débat vigoureux, ils sont loin d'être homogènes, et leurs apports scientifiques ne sont pas négligeables, loin de là. Pourtant, ils reposent sur un postulat commun que nous nous proposons d'examiner. Ils ne voient le réel que comme un lieu de domination et d'oppression. Des femmes par les hommes, du sud par le nord, des racisés par les blancs, de la nature par la technique. On comprend pourquoi, à partir de cette grille de lecture, il est urgent de se réveiller, de réécrire ou d'effacer le passé, de déboulonner les statuts, quand bien même il faudrait au passage prendre quelques libertés avec la liberté de ceux qui sont encore endormis. Le lien nous semble en effet évident entre cette pensée woke et la cancel culture. Et la première journée du colloque en donnera de nombreux exemples, en revenant avec précision sur les principaux champs d'application de ces théories, pour en montrer les limites et les contradictions. Enfin, le troisième objectif du colloque n'est pas seulement de déconstruire la déconstruction, mais de proposer des horizons de recherche plus constructifs. Certes, le thème de reconstruction peut paraître bien emphatique, mais il ne consiste qu'à rendre à la déconstruction sa valeur propédeutique, jadis soulignée par Paul Ricoeur. La déconstruction n'est, à mon sens, disait-il, que l'envers d'un autre programme, un programme de reconstruction, dont l'entreprise est perçue comme un problème. C'est à ce problème que nous voulons nous atteler, alors qu'une vision téléologique fait volontiers de la déconstruction une fin en soi et l'enrôle sous la bannière du progrès scientifique, forcément bénéfique et en tout cas inéluctable. Le progrès scientifique demande de l'humilité et non des certitudes toutes faites. En tant que chercheurs, nous savons que l'on avance en se remettant toujours en question. Et c'est cette inquiétude fondamentale de la pensée que nous souhaitons préserver. Il faut sauver l'esprit critique face aux dogmes des études critiques. Le but du colloque est de permettre un débat apaisé, un échange intellectuel, sans que l'accusation morale ou la vindicte ne prennent le pas, comme c'est trop souvent le cas. Les patients qui se sont émus ces derniers jours montrent l'urgence de restaurer un espace de dialogue et de controverse pacifique, en desserrant au passage les pressions qui s'exercent sur la liberté académique. Avant de conclure, nous voudrions remercier vivement les instances qui ont permis la tenue de cette manifestation. Le ministère de l'Éducation nationale, le rectorat de Paris et ses services techniques, le comité Laïcité République, ainsi que tous les collègues qui se sont mobilisés en ces temps difficiles pour apporter leur participation ou leur soutien. À tous un grand merci et tous nos vœux pour que 2022 soit une année constructive.
Merci Emmanuel. Donc, j'appelle les participants à la première table ronde donc, de se présenter. Véronique Taquin, Pierre Vermuren, Albert Doja, donc je ne sais pas si on pourra l'avoir en Zoom. Très bien. Je présente, pendant que, chers collègues, vous vous installez, je présente les sincères excuses de Jacques Julliard, qui devait être des nôtres ce matin, mais qui a eu une opération dont il a un peu de mal à se remettre sans aucune gravité, et il est vraiment fatigué, je regrette beaucoup. Il m'a chargé de témoigner à l'initiative de ce colloque sa plus grande sympathie, son soutien, et il s'est engagé à nous transmettre par la suite un écrit sur ce sujet. Je regrette beaucoup parce qu'on a beaucoup échangé avec Jacques Julliard sur ce colloque, sur sa dimension historique, sur son expérience aussi, parce qu'il connaît ces choses très bien, aussi bien pour la France que pour les États-Unis. Et voilà, c'est un grand regret, mais que la période Covid explique. Également les excuses de Philippe Reynaud, qui lui aussi a eu une opération récente, et donc c'était plus prévisible, elle a été très récente, et il savait qu'il ne pouvait pas être parmi nous. Donc nous abordons une première thématique, dans le cadre de ce colloque, que je voudrais présenter rapidement en une sorte de version martyr. La première session s'appelle « Généalogie de la déconstruction », ce qui est évidemment une forme de clin d'œil. Et le but de cette première table ronde, c'est d'affronter effectivement la question clé, c'est est-ce que nous avons raison de penser quelque chose comme le déconstructionnisme ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça a une cohérence ? Est-ce que ça a une amplitude qui permet effectivement de considérer qu'il y a, à travers ce terme, une sorte de regroupement de tout, d'un certain nombre de pensées, de doctrines qui nous paraissent cohérentes entre elles, même si, il faut bien reconnaître, qu'elles sont susceptibles d'être elles-mêmes en débat. Et donc, l'objet de cette première session va se décliné en trois moments, un premier moment plutôt historique, vraiment généalogique, un deuxième moment plutôt idéal typique, dans la table ronde que animera Xavier Laurent Salvador, et puis un troisième moment plus international, à travers la contribution de nos amis qui devaient venir de l'étranger, mais évidemment, hélas, à cause des conditions sanitaires, nous ne pouvons pas les accueillir, et ils ont témoigné le plus souvent en nous envoyant des vidéos que nous vous transmettrons. Alors, pour ouvrir cette première table ronde, je propose une sorte de version martyr que mes collègues vont pouvoir critiquer, dénoncer, peut-être nuancer, sur cette justification de ce qu'on appelle, c'est le titre de cette première table ronde, les trois âges de la déconstruction. Les trois âges de la déconstruction, qu'est-ce que ça veut dire et en quel sens on peut en parler de manière cohérente, en ayant en tête l'idée que nous sommes au troisième ou peut-être au quatrième âge de cette déconstruction et que ce moment est sans doute problématique. La déconstruction, c'est un vaste mouvement philosophique, nous semble-t-il, qui a constitué, que l'on peut identifier dans une certaine mesure, à l'ensemble de la philosophie moderne. En un sens, déconstruction commence au moment où les grands fondements principaux qui assureraient la cohérence de l'édifice intellectuel d'une époque, à savoir le monde de la tradition, une vision de la nature relativement cohérente ou une référence au divin et à la théologie, ces trois fondements sont apparus être ébranlés. Et la philosophie moderne débute au moment où l'évidence d'une référence au passé, d'une référence à la nature ou d'une référence à la divinité deviennent ces trois références incertaines. Et donc se met en place un processus qui irait de Descartes, ou même peut-être Machiavel, jusqu'à Kant, un processus qui vise à envisager, à côté de ces vérités qui nous tombaient en quelque sorte du ciel, des dispositifs de déconstruction de ces vérités qui nous tombaient du ciel, parce qu'elles ont perdu de leur évidence, et des dispositifs de reconstruction de vérités humaines. Au fond, ce premier âge de la déconstruction, c'est l'âge critique. C'est l'âge critique, c'est l'âge de la table rase, en un sens cartésienne, c'est l'âge de la critique kantienne de la métaphysique, c'est l'âge aussi de la critique spinoziste de la théologie, à bien des égards, et cet âge constitue effectivement, comme première étape, l'idée qu'il faut faire le ménage dans ce qui a constitué, pendant une grande période de l'humanité, qui a constitué les fondements intellectuels sur les grandes valeurs, le vrai, le beau, le bien, etc. Mais simplement, cette phase critique est à toujours la construction ou la reconstruction en ligne de mire. Quand Descartes pratique la table rase, la tabula rasa, ou le doute, c'est pour dépasser le doute, et non pas pour s'installer dans le doute. Douter de tout, et voir qu'on ne peut douter que, on ne peut pas douter du fait que l'on doute, et que ce doute est toujours imputable à une subjectivité, c'est un élément qui est un élément constructeur, constructif. Ce premier âge aboutit à, en effet, l'élaboration de ce qu'on peut appeler au sens très large l'humanisme, c'est-à-dire l'idée que c'est au cœur de l'humain que les idées essentielles peuvent être élaborées dans une perspective qui peut paraître folle. On prend souvent, en utilisant l'image utilisée plus tard par Nietzsche, du baron de Münchhausen, vous savez, ce baron légendaire qui tombe dans un marais et qui commence à couler avec son cheval jusqu'à ce qu'il ait l'idée géniale de se tirer lui-même par les cheveux. Et ce baron de Münchhausen qui se tire par les cheveux, c'est effectivement ce désir de vouloir reconstruire l'ensemble de l'édifice des sciences, mais aussi de la politique, mais aussi de l'esthétique, pour arriver à effectivement rester dans le monde commun. À ce premier âge de la déconstruction, on peut ajouter un deuxième âge de la déconstruction qui va radicaliser l'esprit critique en philosophant avec le marteau, comme dit Nietzsche, et cette deuxième âge commence avec Schopenhauer et Nietzsche, par où il s'agit de faire en sorte que les constructions humaines elles-mêmes soient susceptibles d'être déconstruites, critiquées, passées au crible de l'esprit critique. Schopenhauer, Nietzsche, mais aussi Marx, mais aussi Freud, jusqu'à Heidegger, cette Abbau der Metaphysik, cette déconstruction de la métaphysique, c'est l'idée que, d'ailleurs en débat au sein de ce mouvement, puisque Heidegger critique Nietzsche comme étant lui-même pas assez déconstructionniste, si je puis dire. Et donc ce deuxième âge vise à passer au crible de la critique tout ce que l'humanisme avait construit. Pourquoi ? Dans quel objectif ? Dans l'objectif que ces idées, comme le dit parfaitement Nietzsche, sont des idoles. Et que ces idoles nous empêchent, pour Nietzsche, de vivre, pour Marx, cachent des rapports de force économiques et sociaux, pour Freud, occulte des conflits intérieurs, et pour Heidegger, nous éloigne de l'être. Au fond, ce deuxième âge de la déconstruction vise à produire une forme de réalité supérieure à celle de la réalité de l'humanisme. Vient une troisième époque de la déconstruction, qui est l'époque qu'on a appelée la pensée 68, de manière polémique. Alors, de manière polémique, oui, mais je rappelle que Luc Ferry et Alain Renaud qui écrivent la pensée 68, et je leur rends hommage ici, puisqu'ils le font dans le cadre du Collège de philosophie, qui est l'organisateur de cette conférence. Donc c'est dans le cadre du Collège de philosophie que cette idée, qui a fait susciter beaucoup de débats, d'une pensée 68, qui, d'une certaine manière, peut s'interpréter de deux manières, de deux façons. Pour une part, c'est la répétition du geste du deuxième âge, mais sous une autre forme, l'élargissement du geste de la critique engagé par la génération de Nietzsche, Marx et Heidegger. Et effectivement, ces auteurs, Derrida, Foucault, Bourdieu, à certains égards, reprennent et élargissent ce deuxième âge de la déconstruction. Mais ils ouvrent aussi la voie vers une troisième époque, vers une troisième manière de déconstruire, où l'on pourrait dire que la déconstruction ne vise plus que la déconstruction, c'est-à-dire la déconstruction devient, c'est presque un terme heideggerien, devient une technique qui ne vise qu'elle-même et qui ne se produit comme d'une certaine manière d'un projet, d'un processus sans fin, qui a pour fin le processus lui-même. Et c'est peut-être ce point, donc c'est le point sur lequel je vous interrogerai, qui peut paraître comme étant l'élément que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans ce qu'on peut appeler peut-être sur le plan de la l'idée qui la représenterait le mieux, probablement, c'est cette idée d'intersectionnalité, me semble-t-il, ce que j'appellerais le déconstructionnisme intersectionnel, qui consiste à dire qu'au fond, première idée, j'essaie d'en construire le type idéal, tout est domination. Comme le disait Emmanuel Hélin il y a un instant, le réel, c'est la domination, c'est le rapport de force. C'est une ontologie de l'oppression. N'existe que ce qui est dominant ou dominé. Rien d'autre n'existe. Clé de lecture exclusive sur le réel, le rapport de force et la domination. Donc c'est une ontologie, c'est une pensée forte. Si ça existe, c'est comme ça qu'on doit l'identifier. C'est une philosophie. Deuxième idée, l'Occident est notoirement... La colonisation occidentale représente l'apothéose de la domination. Donc, le réel, c'est la domination, mais l'apothéose de la domination est constituée par le processus colonial parce qu'il condense dans ce mouvement historique la domination du Nord sur le Sud, la domination de la raison sur l'émotion, la domination des hommes sur les femmes, patriarcat sur les femmes, la domination de la technique sur la nature. Et donc, dans le moment colonial, se condense l'apothéose de tout ce que l'humanité a pu concevoir comme domination. Deuxième idée. Troisième idée de cet idéal type, en apparence, la décolonisation a eu lieu, mais ce n'est qu'une illusion. Comme le diable nous fait croire qu'il n'existe plus, la colonisation nous fait croire qu'elle n'existe pas. Et donc, il faut, à partir de là, bien identifier qu'elle est toujours présente. Domination du Nord sur le Sud est toujours présente. La domination de la raison sur l'émotion est toujours présente. La domination, en dépit de l'émancipation de la femme, du patriarcat, est toujours présente et probablement plus terrible encore que par le passé. La domination de la technique sur la nature est a atteint des proportions effroyables. Par où l'on voit qu'à partir de là, il faut se réveiller. Il faut se réveiller pour sortir de notre vie quotidienne, pour sortir de l'illusion que finalement tout va mieux, de l'illusion que la démocratie c'est formidable, que le capitalisme a éradiqué la pauvreté dans le monde. Il faut sortir de cette illusion, il faut sortir de l'illusion que le féminisme a émanciper les femmes, tout ça est faux. En réalité, les dominations plus sournoises sont plus profondes. Cinquième idée, à partir de là, et devant le constat de cette domination implacable, féroce, totale, on le comprend, eh bien le passage de la théorie à la pratique va sans dire. Il faut donc non seulement se réveiller, mais annuler. Et c'est là où le passage entre le théorique et le pratique, entre la science et le militantisme, se situe. Donc voilà cette construction idéal typique qui, évidemment, comme tout idéal type, fait l'impasse sur de nombreux débats qui peuvent traverser ce courant, sur la diversité de manière de présenter les choses, sur la diversité, sur des débats très vifs qui peuvent exister entre quelle est la domination la pire, c'est ma domination, c'est pas la tienne. Voilà, on peut discuter à l'infini, mais au fond, l'ontologie de la domination ou de l'oppression reste le point commun de ce déconstructionnisme. Donc voilà, à titre d'hypothèse, encore une fois, je livre votre sagacité et bien sûr aussi à la vôtre, à titre d'hypothèse, la manière dont on peut appréhender en première approximation l'objet déconstructionnisme. Et donc, nous allons procéder de la manière suivante, si vous le voulez bien. Donc, Véronique Taquin et Pierre Vermeren, qui sont présents, interviendront pour réagir et puis présenter, bien sûr, leur propre vision. Berdojac est en ligne, nous suivra dans une première prise de parole, si vous voulez, peut-être assez rapide, de 5-6 minutes, et puis ensuite, nous ferons de nouveau un tour de table pour essayer de répondre à cette question. Est-ce que le déconstructionnisme existe ? Véronique Taquin. Donc, je vous présente, bien sûr, Véronique Taquin, qui est romancière, qui est professeure de classe de chaire supérieure au lycée Condorcet, qui a une œuvre multiple, à la fois de romancière, des romans qui réfléchissent sur les réseaux, sur la manière dont la création peut se faire à travers les réseaux, mais aussi un travail extrêmement important sur le rapport entre littérature et cinéma, des films aussi, et puis une intervention dans les domaines économiques et politiques qui ont fait donc un observateur avisé de ce phénomène.
Merci de cette présentation.